Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Le journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. La flamme olympique va bientôt quitter la Grèce. Prochaine étape, Marseille. Nous serons à Athènes au début de ce journal. Sciences Po Paris a été finalement évacué dans le calme hier soir. Des étudiants occupaient l'université. Ils demandaient à leur direction de prendre position sur la situation à Gaza. Puis en rugby, les Bleus affrontent les Anglaises ce soir à Bordeaux pour leur dernier match du tournoi des Six Nations. Elles ne les ont pas battues depuis 2018.
Et on prend donc tout de suite la direction d'Athènes, en Grèce, là où la flamme olympique s'apprête à partir pour la France.
Oui, départ prévu dans une heure à bord du Belém, le dernier grand voilier français. Et pendant les 12 jours de traversée jusqu'à Marseille, la flamme sera au centre de toutes les attentions à bord. Julien Richard, vous êtes au port du Pirée d'Athènes pour RMC.
Oui, c'est un passager VIP, nous disait il y a quelques minutes le capitaine du BLM, un peu comme un chef d'État. La flamme va voyager dans une petite lanterne sécurisée d'à peine 30 cm de haut, couleur cuivrée, brillante, frappée du logo Paris 2024, avec trois gardiens, policiers, militaires, sécurité civile, qui vont se relayer pour la surveiller en permanence, chargés aussi de s'occuper de sa maintenance. La flamme, elle est alimentée par de la paraffine, 8 heures d'autonomie pour cette lanterne qu'il faut donc recharger. Elle sera placée dans la salle de vie du BLM, où se déroule notamment les briefings, donc visibles en permanence. Elle pourrait s'offrir aussi quelques petites escapades en extérieur pendant les manœuvres. Une lanterne de secours avec le feu originel allumé à Olympie est également embarquée. Le BLM et sa précieuse cargaison qui seront accompagnés par un navire de la marine française sur les 12 jours de traversée prévue jusqu'à Marseille.
À Paris, l'université Sciences Po a été évacuée dans le calme hier soir.
Elle était occupée par quelques centaines d'étudiants. Ils demandaient à leur université de se positionner sur les actions d'Israël à Gaza. Finalement, un accord a été trouvé entre les étudiants et la direction. Amine Lafchin y était pour RMC.
On a, vous savez, devant nous, 60.
Devant les locaux de Sciences Po, de jeunes manifestants, pancartes et drapeaux palestiniens en main. Au milieu de la foule, Mano, étudiant de Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye.
Je pense qu'ici, c'est particulièrement symbolique. Les universités, c'est vraiment là où il y a le débat étudiant, les réflexions. Moi, je pense que c'est très important d'être justement devant une université plutôt que dans un autre lieu à Paris.
De l'autre côté de la rue, des manifestants pro-israéliens.
Je suis en colère parce qu'ils ont enlevé le drapeau de la France sur la devanture de Sciences Po.
Maxime aussi étudie ici et dénonce un climat délétère dans les salles de classe. Pour lui, le conflit israélo-palestinien n'a pas sa place ici.
Aujourd'hui, le discours qu'on porte, c'est apaisement de la situation. On arrête d'importer un conflit dans les universités et on débat sereinement dans le cadre démocratique.
Victor, lui, est là car il devait participer à une conférence finalement annulée. Et même s'il comprend les revendications des manifestants, pour lui, bloquer l'établissement n'est pas la solution.
Le droit à manifester, c'est fondamental. Mais il y a aussi le droit à l'éducation. Et je vois mal en quoi bloquer une école va forcément aider à la prise de conscience ou à quoi que ce soit d'autre.
L'école a été débloquée dans la soirée après la publication d'un communiqué de l'établissement.
À Gaza, justement, le Hamas a déclaré étudier hier une contre-proposition israélienne sur une possible trêve dans les combats à Gaza, mais aussi sur la libération d'otages. Un traitement efficace contre la bronchiolite, le Beforus, dont la première campagne de traitement s'est déroulée à l'automne dernier, a permis d'éviter 5800 hospitalisations. C'est ce qu'indiquent deux études publiées hier par l'Institut Pasteur et Santé publique France. Alors que chaque année, 480 000 bébés de moins de 2 ans ont la bronchiolite, Pierre Bourgès, cet hiver, il y a donc eu une baisse importante du nombre de nourrissons hospitalisés.
Oui, avec ce traitement par injection, le risque de forme grave de la bronchiolite est réduit de près de 80% chez les nourrissons, selon l'étude. Les symptômes les plus graves sont rares, mais peuvent être sévères, notamment chez les bébés de moins de 2 mois, entraînant des infections pulmonaires et des difficultés respiratoires. C'est donc une bonne nouvelle pour Jérémy Docao, président du SNPEH, qui représente les pédiatres du milieu hospitalier.
Ça va être utile pour les enfants. Pour eux, ça va être potentiellement éviter une hospitalisation pour une bronchiolite. Ça va aussi ralentir la pression que ça peut avoir sur les urgences pédiatriques l'hiver. S'il y a moins d'hospitalisation, on a aussi moins de temps perdu à chercher une place d'hospitalisation.
Parce que l'étude de l'Institut Pasteur indique également que 5800 cas d'hospitalisation ont pu être évités grâce au traitement, alors que 35 000 nourrissons de moins d'1 an sont hospitalisés chaque hiver. Le traitement permettrait donc de désengorger les hôpitaux déjà saturés à cette période de l'année. En 2024, le ministère de la Santé se prépare à sécuriser assez de doses pour immuniser 600 000 bébés, 2 fois plus que l'année dernière.
9h05 sur RMC, du rugby avec les Bleus qui affrontent à 17h45 les Anglaises pour leur dernier match du tournoi des Six Nations.
Les deux équipes ont gagné tous leurs matchs jusqu'ici. Celle qui s'imposera au stade Chaban-Delmas remportera donc le Grand Chelem et les Françaises devront faire fort pour battre leur rivale anglaise, Winnie Claret, car elles ne les ont pas battues depuis 2018.
38 essais marqués en 4 matchs. L'Angleterre survole le tournoi des Six Nations cette année grâce à une ligne arrière flamboyante et aussi grâce à des avants massives. Et ça, l'ouvreuse tricolore Lina Kerwa le sait bien.
Forcément que les conditions elles vont être plus fortes. On sait très bien qu'au milieu du terrain, c'est une équipe hyper costaud, mais nous, on a aussi nos forces.
Au rouleau compresseur anglais, les Bleus veulent opposer leur French flair, confirme la troisième ligne, Emeline Gros.
On a un jeu qui est assez épuré, qui est allé chercher les couloirs, qui est assez rapide. Et je pense que là aussi, le maître mot, c'est d'aller les étouffer et d'aller jouer très rapidement sur certaines phases.
Les Françaises l'assurent, elles sont prêtes physiquement et mentalement avant le crunch. Elles qui n'ont plus battu les Anglaises depuis 2018. L'attente est énorme, nous disent la demi de mêlée Pauline Bourdon-Sensus et la troisième ligne Gaëlle Hermé.
Ça enverrait un gros signal pour la Coupe du Monde qui est dans un an.
Ce serait une récompense, comme elle le disait Pauline, de tout le travail fourni. On a envie aujourd'hui de sortir avec quelque chose au bout. Quoi. Aujourd'hui, on a envie de connaître un autre sentiment.
Les Bleus sont déjà assurés de battre un record, le record d'affluence dans un stade français pour du rugby féminin.
Et oui, car 27 000 personnes au moins sont attendues cet après-midi. Bonne nouvelle du côté de la royauté britannique. On l'a appris hier, pour la première fois depuis l'annonce de son cancer en février, le roi Charles III va reprendre ses activités publiques dès la semaine prochaine. Expliquez-nous, Anna Jojard.
Et oui, depuis l'annonce de son cancer le 5 février dernier, le souverain avait annulé tous ses engagements publics officiels pour se reposer et guérir. Eh bien, plus de 2 mois plus tard, cela a porté ses fruits. Les premiers résultats sont encourageants. Les médecins du roi se disent même optimistes. Mais pas question pour autant d'arrêter les traitements. Ce sera donc un retour à la vie publique en douceur. Ces apparitions seront décidées au cas par cas, selon les recommandations des médecins. Mais 2 dates sont déjà à l'agenda du roi. Mardi, aux côtés de la reine, pour une visite du centre de traitement du cancer et l'accueil de l'empereur et l'impératrice du Japon en juin. Bon, en revanche, rien n'a filtré concernant l'état de santé de Kate Middleton, la belle-fille du roi, elle aussi atteinte d'un cancer.
Anna Jojard pour RMC. Enfin, on vous le rappelle depuis ce matin, mais aujourd'hui, c'est la fête des libraires indépendants. 650 librairies dans toute la France fêtent cette 26e édition. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, à l'image de notre auditeur Jean-Pierre qui nous a appelé ce matin.
Jusqu'à mes 40 ans, je n'avais pas ouvert un livre. J'avais lu 0 livre. Et à la naissance de ma fille, à 40 ans, bah, quand elle a commencé à 2 ans, donc lui lire des petites histoires. Donc voilà, on commence par là. Et maintenant qu'elle sait lire, on s'est mis à lire Harry Potter le 1, le 2. Là, on a entamé le 3 il y a quelques temps. On lit ensemble le soir, donc un chapitre chacun. Et bah, moi, ça m'oblige à lire. Et puis elle adore ça parce qu'elle lit avec son père et elle lit avec ses parents. Et je pense que l'exemple vient des parents.
Excellent témoignage en tout cas. On termine avec les courses sur RMC.
Le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome d'Auteuil à 15h15. Voici le pronostic de Frédéric Kita de la Dream Team des courses RMC. Son favori est le numéro 1 Irish Vocation. Son outsider est le numéro 5 Olala Forez. La course du Quintet est à suivre en direct sur RMC Découverte.